Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 9 juin, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Gaillec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Journée internationale du désarmement volontaire hier en République centrafricaine. D'après l'AFP, quelques centaines d'armes ont été récupérées à Bangui. Mais pour le Premier ministre, c'est une grande satisfaction.
Nous avons collecté beaucoup de grenades, des AK-47, des balles de gros calibre, mais surtout des grenades. Je tiens à dire à la population centrafricaine que les grenades ne sont pas des jouets.
Pendant ce temps, le Tchad affirme qu'il ne soutient pas les rebelles de la Séléka en RCA. Manifestations au Nigeria et au Soudan, on compte un mort à Khartoum. En Égypte, l'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi a été investi président pour un mandat de 4 ans. Et au Pakistan, un attentat a fait 23 morts au moins dans le principal aéroport de Karachi. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
Nous ouvrons sur la République centrafricaine. La déception est grande chez les partisans de la paix après la journée nationale de désarmement volontaire hier. D'après l'AFP, seules quelques centaines d'armes ont été récupérées à Bangui, dont la plupart dans les quartiers musulmans. Une collecte modeste au vu de la prolifération des armes dans la capitale, a constaté l'AFP. Le chef de quartier du 2e arrondissement à Bangui, Éloi Mapako, nous livre ses impressions sur cette opération au micro de Félix Yepassis Zembrou.
C'est vrai, on a fait le travail, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que les gens ne sont pas tellement convaincus. Il y a une certaine réticence, les gens ont peur. Ils se disent que bon, si on donne, il y a autour qui le désarmement ne se fait pas.
Si je comprends bien, le désarmement n'a pas été effectif dans le 2e arrondissement.
Non. C'est-à-dire que mais, comment on peut vraiment préciser dans la mesure où on ne sait pas qui détient et qui ne détient pas.
Le Tchad n'a pas soutenu et ne soutiendra jamais un mouvement armé ayant l'intention de déstabiliser la RCA. C'est en ces termes que N'Djamena a démenti les accusations de l'ONU, affirmant que le Tchad avait soutenu les rebelles de la Séléka pour prendre le pouvoir en Centrafrique. Des élucubrations, répond le gouvernement tchadien.
Les enquêteurs affirment notamment qu'il existe assez de preuves pour penser que l'ex-président Diotto Dia et la Séléka ont reçu un soutien financier et militaire du gouvernement du Tchad pour renverser le président François Bozizé en mars 2013. Des officiers tchadiens ont été vus à Bangui, opérant dans le cadre du mouvement Séléka, ajoute le rapport. Le gouvernement tchadien demande la fin de cette campagne gratuite à son encontre et reproche aussi aux enquêteurs de l'ONU de ne pas avoir pris en compte les lourds sacrifices consentis par le Tchad sur les plans humains, matériels et financiers en vue de venir en aide à ce pays frère et ami depuis des décennies.
Décès d'un manifestant hier à Khartoum, la capitale du Soudan. Une personne est décédée après avoir inhalé des gaz lacrymogènes, indiquait la police dans un communiqué publié sur son site internet. La police avait ainsi tenté de disperser la foule. Les manifestants qui dénonçaient des coupures d'eau, indique l'AFP, citant la police et des témoins.
Des manifestations ont également eu lieu à Kano, dans le nord du Nigeria. Des centaines de jeunes sont descendus dans la rue hier soir, dans la deuxième plus grande ville du pays. Ils dénonçaient la nomination du gouverneur déchu de la Banque centrale nigériane, Lamido Sanusi Lamido, comme émir de Kano, l'un des principaux dignitaires musulmans du pays. Ces jeunes ont allumé des feux dans la rue qui mènent au siège du gouvernement local.
Le gouvernement sud-soudanais s'en est pris au Kenya et au Soudan, deux pays ayant reçu récemment des représentants de la rébellion sud-soudanaise. Les précisions de Félix Yepassis Zembrou.
Le porte-parole gouvernemental sud-soudanais Atteni Wek Atteni a accusé le Soudan voisin de saper la légitimité du président sud-soudanais Salva Kiir et les relations bilatérales en permettant à une délégation des rebelles sud-soudanais de tenir une conférence de presse à Khartoum. Atteni Wek Atteni a aussi critiqué le Kenya pour l'accueil réservé au leader rebelle sud-soudanais Riek Machar à Nairobi.
for the government of Kenya to accord, you know, rebel leader a red carpet.
Que le gouvernement du Kenya déroule le tapis rouge à un leader rebelle est une insulte à la souveraineté du Soudan du Sud, a déclaré le porte-parole gouvernemental sud-soudanais. C'est aussi une insulte au peuple sud-soudanais contre lequel l'ancien vice-président Riek Machar a pris les armes, a ajouté Atheni Wek Atheni. Certains analystes estiment que le Soudan du Sud est allé trop loin dans ses protestations dans la mesure où la constitution sud-soudanaise garantit la liberté d'expression. Pour le porte-parole gouvernemental sud-soudanais, c'est une chose de s'exprimer librement et pacifiquement, c'en est une autre de prendre des armes pour appuyer son propos.
En Égypte, l'ancien chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sissi, a été investi président hier pour un mandat de 4 ans, moins d'un an après avoir renversé le premier président démocratiquement élu du pays, l'islamiste Mohamed Morsi. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Abdel Fattah al-Sissi a prêté serment devant la Cour suprême égyptienne en présence de dignitaires nationaux et étrangers, jurant de préserver le système démocratique et de respecter la constitution de l'Égypte. Le nouveau dirigeant égyptien qui fait face à un mécontentement croissant au sujet de la répression des dissidents et d'une économie nationale à genoux a promis de remettre le pays sur les rails après 3 ans d'instabilité. Abdel Fattah al-Sissi a dit dans son discours d'investiture que l'Égypte a tiré les leçons de 2 révolutions depuis 2011. Le succès de ces révolutions dépendra de la réalisation de leurs objectifs, de l'amélioration des conditions de vie et de l'édification d'un avenir plus prospère, a-t-il déclaré hier. Les frères musulmans de l'ex-président Morsi ont boycotté la présidentielle. Ils n'ont pas d'avenir en Égypte, a fait savoir le nouveau président.
Sachez aussi que le président sud-africain Jacob Zuma est sorti dimanche de l'hôpital. Âgé de 72 ans, il avait été admis la veille pour des examens suite à un épuisement. Il va très bien, selon une de ses épouses.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Reprise des tirs ce matin à l'aéroport de Karachi au Pakistan, c'est ce qu'indique l'AFP alors que l'armée avait annoncé à l'aube avoir repris le contrôle des lieux. L'assaut mené hier par des hommes lourdement armés a déclenché une fusillade de 5 heures avec la police et des soldats, bilan au moins 23 morts. D'après les autorités, certains ont été abattus par la police et d'autres se sont fait exploser. L'attaque n'a pas été revendiquée mais les talibans pakistanais sont soupçonnés.
Législative au Kosovo, le parti au pouvoir revendique la victoire. Les premiers résultats de l'élection d'hier indiquaient qu'il avait obtenu 31% des voix contre 25% pour le principal parti d'opposition. Un sondage non partisan à la sortie des urnes laissait lui aussi entendre que le parti du Premier ministre Hashim Thaçi était en tête.
Les États-Unis vont dépêcher 2 diplomates de haut rang à Genève pour des pourparlers directs avec l'Iran sur son programme nucléaire controversé. Les discussions vont porter sur les sanctions de l'Occident contre l'Iran en rapport avec ce programme. Jean-Roger Bion.
Le secrétaire d'État adjoint William Burns, négociateur en chef des États-Unis, et la sous-secrétaire aux affaires politiques Wendy Sherman vont rencontrer les autorités iraniennes aujourd'hui et demain mardi. Le négociateur nucléaire en chef de l'Iran, Abbas Araghchi, a déclaré hier à la télévision iranienne que la réunion de ce lundi avec les représentants américains vont également inclure une représentante de l'Union européenne en la personne de Helga Schmidt. L'Iran et le groupe des 6 puissances États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne, France et l'Allemagne ont conclu un accord intérimaire en novembre qui a limité le programme d'enrichissement d'uranium de Téhéran en échange d'un assouplissement partiel des sanctions. Les deux camps espèrent conclure un accord définitif d'ici le 20 juillet. Les États-Unis et d'autres puissances occidentales ont longtemps accusé l'Iran de tenter de développer des armes nucléaires, mais l'Iran maintient que ses objectifs nucléaires sont pacifiques.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec. La déception est grande chez les partisans de la paix après la journée nationale du désarmement volontaire hier en RCA. D'après l'AFP, seules quelques centaines d'armes ont été récupérées à Bangui, dont la plupart dans le quartier musulman. Une collecte qui pourrait donc paraître modeste vu la prolifération des armes dans la capitale. Pourtant, le gouvernement parle d'une opération effective. Nous écoutons le Premier ministre André Ndzapayeke au micro de Félix Yepassi-Zembrou.
Pour moi, c'est une grande satisfaction. Si nous voyons les circonstances dans lesquelles cette opération a été programmée et préparée, on peut dire que le message que nous avons lancé, quand nous avons fait le tour des arrondissements, a été entendu. Aujourd'hui, dans certains arrondissements, surtout le 4e et le 3e, il y a eu un engouement pour étudier les armes. Nous avons collecté beaucoup de grenades, des AK-47, des balles de gros calibre, mais surtout des grenades. Vraiment, alors là, on était inquiets. Je tiens à dire à la population centrafricaine que les grenades ne sont pas des jouets, c'est extrêmement dangereux. Et pour la prochaine opération, il faudrait absolument que la population se mobilise pour restituer les grenades. Parce que vraiment, nous ne pouvons pas continuer à mettre en danger la vie des populations, la vie de nos enfants avec ces engins extrêmement mortels. Mais ce que nous avons voulu surtout, c'était, et nous l'avons obtenu, c'était une opération de communication. Pour que les gens commencent à en parler, pour que les gens intègrent réellement ce que c'est que l'idée de la paix et comment arriver à la paix et surtout l'importance du désarmement comme élément essentiel de retour à la paix.
Sinon, vous avez quand même noté une volonté manifeste de ce désarmement volontaire.
Il y a vraiment une volonté. Il y a encore certaines hésitations, mais la volonté est forte. Nous allons continuer ce travail jusqu'à ce que la RCA retrouve une situation de sécurité acceptable.
Et avec ce résultat, peut-on espérer un retour de la paix
La paix ne vient pas par avion ou par un autre moyen de transport, ça ne vient pas d'ailleurs. C'est un comportement, c'est une attitude, c'est un mot. Ce sont les individus qui font la paix. Donc nous comptons absolument sur chaque Centrafricain, comme je vous dis, dans le regard de chaque Centrafricain aujourd'hui, dans le langage que tient le Centrafricain aujourd'hui, il y a cette forte volonté de retrouver une situation stabilisée dans notre pays.
André Nzapayeke au micro de Félix Yepassi Zembrou.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
En Guinée, les préparatifs en vue de l'élection présidentielle de 2015 sont en cours. La commission électorale a annoncé le recrutement d'un nouvel opérateur technique en vue de l'enrôlement des électeurs. En attendant, le climat politique demeure particulièrement tendu. Il y a quelques jours, l'opposition guinéenne menaçait de redescendre dans les rues pour réclamer le respect des accords du 3 juillet 2013. De Conakry, le reportage de Zakaria Camara.
Le gouvernement guinéen et les partis politiques de l'opposition s'accordaient avant la tenue des élections législatives de 2013 à changer d'opérateur technique, c'est-à-dire un opérateur consensuel et qui doit avoir la charge de proposer un fichier incontestable pour la présidentielle de 2015.
Lancé pour démarrer son activité régulière de recrutement d'un opérateur technique pour que les électeurs de 2015 puissent être régulièrement et équitablement inscrits sur la liste nationale.
Selon Maxime Koivogi, directeur du département transparence de la CENI qu'on vient d'entendre, un comité technique sera chargé de définir les conditions du recrutement du nouvel opérateur électoral.
Donc les trois documents-là, nous allons les produire et nous allons les mettre à la disposition de toutes les sociétés qui sont intéressées à participer à l'activité de révision ou à être adjudicateur de ce contrat sans aucune exclusion.
La CENI fait ainsi un pas vers la présidentielle de 2015 et qui parle du rendez-vous électoral de 2015 en Guinée se fait entendre par des Guinéens.
Si c'est toutefois il y a l'intérêt pour le peuple guinéen, il le faut. On veut maintenant vraiment que l'État guinéen soit un État de référence comme les autres États, un État de droit moderne.
Demander à mettre en place une commission qui puisse recruter un opérateur électoral, ce n'est pas du tout mal. Seulement, il faut craindre aussi que in fine qu'il y ait encore d'autres problèmes.
Aujourd'hui, si l'opérateur en place est décrié par l'opposition, je crois qu'il faut aller au changement de l'opérateur par un appel d'offres. C'est à ce titre que je félicite la CENI.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Au Mali, l'élection communale aura lieu le dimanche 26 octobre 2014. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et la classe politique. La rencontre a notamment porté sur l'organisation matérielle du scrutin, mais l'instable situation prévalant actuellement au Mali fait peser de sérieux doutes sur la possibilité de tenir ces élections communales. De Bamako, le point avec Kassim Traoré.
Cette première rencontre du ministre de l'Intérieur avec la classe politique a porté sur les grandes étapes de l'organisation des élections municipales à venir. Général Sada Samake, ministre de l'Intérieur du Mali.
Nous avons mis en place une commission de réflexion au niveau du département qui a eu à dégager un certain nombre de points qui sont aujourd'hui des étapes essentielles pour aller vers l'établissement, l'élaboration d'un fichier électoral. Dans le cadre de l'élaboration de ce fichier, nous avons un certain nombre de dispositions. D'abord, il y a les activités préparatoires, les opérations d'enrôlement et de mise à jour du fichier de l'AVEC, l'actualisation du fichier électoral biométrique, la production et la remise des cartes NINA titulaires. La deuxième étape, ce sont les modifications de certains textes fondamentaux. D'abord, le code électoral, le code des collectivités, et le statut particulier du district.
Pour le ministre Sada Samake, l'élection municipale peut se tenir le dimanche 26 octobre 2014.
Il faut qu'on évite très rapidement qu'on puisse un consensus, mais que cela se fasse pour qu'on ne soit pas hors des délais légaux. Notre souci pour qu'on ne soit pas pris de court par les délais légaux, ce n'est pas bon.
Les partis politiques ont émis des doutes. Selon eux, la situation actuelle à Kidal ne permet pas l'organisation des élections au mois d'octobre. Mamadou Damélé dit Myria.
Moi, je ne crois pas à la tenue des élections en mois d'octobre. Vu que tous les problèmes qui ont été annoncés, ce n'est pas possible. Les quatre NINA, on a constaté ces insuffisances.
Les ministres de la décentralisation et de la ville pensent que le coup est jouable. Ousmane Sy.
Nous pensons que nous ne devons pas nous arrêter. Si nous nous arrêtons, nous ne sortirons pas de cette crise. C'est justement en continuant à marcher, nous sortirons de la crise. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut créer les conditions pour aller aux élections. C'est un établissement d'une situation institutionnelle normale. Et la situation institutionnelle ne sera normale que quand nous aurons les élections communales. C'est une préoccupation qu'il faut prendre en charge. Mais il faut travailler pour que ça soit possible. Le Mali reste une république, un État unitaire, mais décentralisé. Je crois que c'est extrêmement important à clarifier.
En tout cas, les personnes qui n'ont pas leur nom sur le fichier électoral seront enrôlées lors des prochains enregistrements biométriques. C'est ce qu'a fait savoir le délégué général aux élections, le général Chaka Sangari. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
La situation au Moyen-Orient, au centre d'une rencontre multiconfessionnelle au Vatican hier. À l'invitation du pape François, le président israélien Shimon Peres, le leader palestinien Mahmoud Abbas, des leaders juifs religieux, chrétiens et musulmans se sont réunis pour prier en faveur d'une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint au Vatican le père Janvier Marie-Gustave Yameogo, chargé du secteur francophone et du continent africain au Conseil pontifical des communications sociales.
Cette prière avait une dimension à la fois interreligieuse et œcuménique. Et le thème de la création a été premier. Ensuite, le mot pardon, la demande de pardon. Pardon pour les divisions, pour les guerres, pour le mal qui est en train de se faire. Et enfin, le troisième thème qui est le thème de la paix. La demande de la paix à Dieu, que tous reconnaissent comme leur Père. Et en reconnaissant aussi l'unité de ce monothéisme-là à partir d'Abraham, vraiment ça a été un moment très intense. Peres après a pris la parole pour rappeler qu'il a l'expérience de la guerre et il appelle la paix de tous ses voeux. Mahmoud Abbas également demande la paix pour son peuple. Et le pape qui souligne effectivement dans ce mot à la fin que nos efforts sont insuffisants humainement pour obtenir la paix. Donc nous demandons cette paix de Dieu et nous demandons de pouvoir nous considérer comme des frères, de pouvoir dialoguer. Et il a dit pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre. Et il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement, oui au dialogue et non à la violence, oui à la négociation et non aux hostilités, oui au respect des accords et non aux provocations. Des paroles très fortes prononcées dans une ambiance de prière et de recueillement.
Des paroles fortes, mais à quoi faut-il s'attendre au-delà du symbolisme religieux?
On ne peut pas déjà faire des conjectures. Et je pense que dans un premier temps, nous pouvons simplement continuer des initiatives de prière. C'est pas pour être prophète. Je pense que de part et d'autre, des initiatives de prière vont être organisées à l'instar de ce que le pape lui-même a organisé ici au Vatican. Et sur la base de la prière, je pense que nous pourrons cheminer ensemble vers plus de paix, vers cette fraternité tant désirée par le pape.
Le père Janvier-Marie Gustave Yaméogo, chargé du secteur francophone et du continent africain au Conseil pontifical des communications sociales, joint au Vatican. Allez, on passe au sport avec Jean-Roger Billon. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Morgane.
Football, les Lions indomptables du Cameroun ont fait la grève hier en refusant de prendre l'avion spécial affrété par la présidence pour rejoindre le Brésil. Jean-Roger, aux dernières nouvelles, un accord a été trouvé avec les dirigeants concernant le montant des primes de match pour la Coupe du Monde.
Oui, Samuel Eto'o et ses coéquipiers étaient restés cloîtrés dans leur hôtel à Yaoundé, assurant qu'ils n'en bougeraient que lorsque les primes qu'ils réclamaient depuis des semaines seraient données. Les Lions indomptables ont refusé ainsi d'embarquer dimanche dans l'avion qui devait les conduire au Brésil. Après une longue réunion avec le Premier ministre, les dirigeants de la Fédération camerounaise de football ont finalement cédé. Ils ont décidé de payer les primes réclamées par les joueurs. Les Lions indomptables du Cameroun ont donc eu gain de cause. Finalement, ils ont pris leur vol hier soir pour rejoindre le Brésil. Ils débuteront la compétition face au Mexique.
Et Jean-Roger, vous avez les résultats des derniers matchs de préparation du Mondial.
Le Cameroun a défait la Moldavie à Yaoundé 1-0. La Belgique a battu la Tunisie 1-0 à Bruxelles. L'Argentine a dominé à Buenos Aires la Slovénie 2-0. L'Espagne a pris le meilleur sur le Salvador 2-0. À Miami, match nul entre l'Angleterre et Honduras, 0-0. Les États-Unis ont dominé à Jacksonville le champion d'Afrique, le Nigeria, 2-1. Et hier, à Lille, la France a infligé une cinglante défaite à la Jamaïque. 4-0. L'Iran a battu à Sao Paulo, Trinidad et Tobago, 2-0. Ce soir, le Ghana croise le fer avec la Corée du Sud. Le Ghana, où Asante Kotoko de Kumasi a remporté la Coupe nationale de football en battant Inter Allies 2-1 après prolongation. Au temps réglementaire, le score était de 1-1 en finale, hier donc à Accra. Asante Kotoko réalise ainsi le doublé Coupe championnat pour la saison 2014.
Et en tennis, à Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal remporte son 9e titre.
Rafael Nadal a triomphé hier sur terre battue de Novak Djokovic. Portant, vous l'avez dit, à 9 son total de victoires à Roland-Garros, l'Espagnol est devenu le premier joueur à s'imposer 5 fois de suite à Paris et également le premier à gagner 9 fois le même tournoi du Grand Chelem. Aucun autre joueur n'a gagné plus de 7 fois le même majeur.
Et pour finir, le basket avec les résultats de la NBA. Les Miami Heat ont vaincu les San Antonio Spurs 98-96.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à-côtés de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. La musique africaine a été parmi les plus remarquées durant ces 3 dernières années. Certains artistes africains sont l'œuvre d'un grand succès sur le plan international. Ils sont toujours sollicités dans les 4 coins du monde, soit pour montrer leur belle voix, soit pour produire des chansons. Tel est l'exemple de Wizkid que nous écoutons ce matin dans On Top Yo Mata.
Petite
précision, hein, Wizkid est un jeune artiste nigérian émanant du label EMI et président du label Starboy.
Oui, Morgan, c'est jeune et très imprégné hein, dans le showbiz. La collaboration internationale avec Wale et d'autres lui ont permis d'effectuer deux prestations scéniques aux côtés du chanteur américain Chris Brown.
Wizkid, On Top Your Matter. Merci Roger.
De rien Morgane. Nos salutations ce matin vont à la famille Soum Moriba à Abidjan.
Voilà, et je vous rappelle que Roger Muntou, vous le retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Ensuite, un rappel des titres avec Anne Albertson. Journée nationale de désarmement volontaire hier en République centrafricaine. D'après l'AFP, quelques centaines d'armes ont été récupérées à Bangui. Mais le Premier ministre André Nzapayeke s'est dit satisfait de l'opération. N'Djamena, de son côté, affirme qu'il ne soutient pas les rebelles de la Seleka en RCA, contrairement aux accusations de l'ONU. Décès d'un manifestant hier à Khartoum, capitale du Soudan. Décédé après avoir inhalé des gaz lacrymogènes, a indiqué la police. Les manifestants ont dénoncé des coupures d'eau. Manifestation également à Kano, dans le nord du Nigeria, pour protester contre la nomination du gouverneur déchu de la Banque centrale nigériane comme émir de Kano. En Égypte, l'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi a été investi président pour un mandat de 4 ans. Et au Pakistan, un attentat a fait 23 morts au moins dans le principal aéroport de Karachi.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriaco, micro. Je vous souhaite une excellente journée.